Le journal de la culture, Matteo Caranta.
À suivre jusqu'à 9h, l'invité culture de vos matins d'été, les artistes Gilbert et Georges. Mais tout d'abord, vous l'avez entendu, lors de retrouver l'actualité culturelle, le journal de Matteo Caranta. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Et on commence aujourd'hui avec un projet de bande dessinée assez particulier.
L'affaire Benalla en bande dessinée, l'histoire de l'ex-chargé de mission à l'Elysée et proche d'Emmanuel Macron, épinglé par Le Monde avec un brassard de police alors qu'il molestait des manifestants le 1er mai, a connu depuis de nombreuses ramifications, usages illégaux de passeports diplomatiques, contrats de sécurité signés avec des oligarques russes proches de Poutine, disparition suspecte de deux coffres-forts avant la perquisition de son domicile par la police le 20 juillet dernier. Digne des meilleurs feuilletons politiques, cette histoire l'est aussi d'un scénario de bande dessinée. Signé par les journalistes Ariane Chemin et Françoise Krug, publié au Seuil cet automne, il sera réalisé par l'un des dessinateurs du magazine d'actualité La Revue Dessinée, magazine qui avait coédité avec Delcourt en janvier dernier un autre roman graphique intitulé Sarkozy-Kadhafi, des billets et des bombes, mais ça, c'est une autre histoire.
L'histoire qui divise aujourd'hui la presse anglaise et égyptienne, c'est celle de Toutankhamon.
Nefertiti, Toutankhamon, et tous les grands pharaons, au bord du Nil, dorment tranquilles, depuis des générations. Les pyramides sont solides.
Toutankhamon ne dort plus si tranquillement au bord du Nil depuis que l'archéologue britannique Howard Carter a découvert son tombeau le 4 novembre 1922. Depuis, le fils présumé de Néfertiti et d'Akhenaton ne cesse de déchaîner les passions. Il eut d'abord le mythe de sa malédiction malicieusement colportée par Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. La mort suspecte de certains membres de l'expédition fut aussi une source d'inspiration pour Agatha Christie, qui publia l'aventure du tombeau égyptien en 1923. Cette fois-ci, pas de mort suspecte ni d'inspiration littéraire. C'est un portrait du jeune pharaon qui fait polémique. Estimé à 4,5 millions d'euros, il sera mis aux enchères par la maison Christie's ce jeudi à Londres et provoque la colère du Caire, qui soupçonne une œuvre volée et demande sa restitution dans le contexte d'un débat autour du retour des œuvres d'art africaines prises pendant la période coloniale. Pendant ce temps, à Paris, l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, bat des records de fréquentation avec plus de 800 000 billets vendus, pas loin de dépasser celui de 1967 quand 1 200 000 visiteurs s'étaient rendus au petit palais pour voir son sarcophage. On parlait alors de l'expo du siècle. 34 siècles après sa mort, Toutankhamon n'est pas prêt de se reposer.
Ouais, contrairement à ce que évoquait la chanson de Pierre Lozère, dont on entendait un extrait tout à l'heure. Matteo Caranta, dans l'actualité littéraire aussi, un voyage dans le temps.
Voyage dans le temps. Jamais la géographie et la cosmographie n'ont connu un progrès aussi enivrant et triomphal que pendant cette période de 50 années. Ce sont les mots de Stefan Zweig à propos des années qui entourèrent l'expédition autour du monde de Magellan. Des mots qui résonnent alors que Le Voyage de Magellan, ouvrage colossal comprenant l'intégralité des sources directes sur cette épopée, est réédité en poche chez Chandaigne. Autre publication, Les Voyageurs de la Renaissance, chez Stock, une anthologie qui regroupe plusieurs textes de Vasco de Gama à Jean de Léry ou Christophe Colomb. L'occasion de revenir sur les fantasmes de ces explorateurs pleins de paradis perdus, d'Eldorado et de cannibales. Des textes fondateurs de l'imaginaire moderne qui gagnent à être lus en ce début de période estivale.
Et pour clore ce journal de la culture, et comme tous les jours de la semaine, nous vous emmenons sur la route des festivals avec aujourd'hui Jazz à Vienne.
Sa groove à Jazz à Vienne qui déroule pour cette 39e édition une programmation choc. Chick Corea, Roy Hargrove, Calypso Rose, Diana Krall, Chili Gonzalez ou Chassol pour ne citer que, et la liste est longue. Le festival célèbre cette année le lien politique privilégié du jazz avec les pays qu'il a traversés et met en avant les work songs, ces chants du travail en lutte des esclaves emmenés de force d'Afrique aux États-Unis et dans les Antilles. Benjamin Tanguy, directeur artistique du festival, revient sur le vent de fraîcheur juvénile et engagé que connaît la nouvelle génération du jazz.
J'ai le sentiment en tout cas que c'est une musique à part avec une nouvelle génération de musiciens qui prennent aussi le jazz comme une musique de danse. Si on retrouve par exemple avec la scène anglaise un côté très dansant en fait dans leur musique qui est très métissée notamment avec des sons caribéens. Et puis aussi des artistes de cette nouvelle génération qui ressentent le besoin que cette musique-là retrouve ses valeurs de musique sociale, politique, avec un vrai discours et une musique à raconter. Et malheureusement, c'est vrai que cette musique souffre encore d'une image un peu poussiéreuse, élitiste. Nous, en tout cas, à Jazz Asian, on a toujours voulu défendre un jazz exigeant, mais en même temps populaire dans le bon sens du terme, pour montrer que cette musique-là est une musique qui a été créée dans la rue, qui a été créée par des musiciens qui avaient le besoin et l'urgence d'exprimer des choses, et que cette musique-là, qui peut avoir des choses très radicales, a aussi un côté très fédérateur.
Ce soir, c'est Bobby McFerrin et les Gimme Five qui feront vibrer le théâtre antique dans un concert d'improvisation musicale.
Et Jazz Asian se tiendra jusqu'au 13 juillet. Merci beaucoup, Matteo Caranta. À demain.
Merci, Olivia. À demain.